Ô Dieu notre Père, nous voudrions vraiment éprouver cet après-midi la présence de Jésus au milieu de nous. Et nous voudrions, comme cette femme, toucher en quelque sorte son vêtement. Dans la certitude de la foi, que toi tu peux quelque chose pour nous. Même si les médecins de la terre ne peuvent plus rien. Cette femme qui, depuis 12 ans, souffrait de cette perte de sang, qui sentait sa vie s'en aller, qui avait dépensé tout son bien sans recevoir de guérison, et qui a cru qu'à ton passage, elle pourrait obtenir une bénédiction. Elle l'a reçue. Qu'il en soit ainsi, que nous ne soyons pas simplement de ceux qui te pressent, qui sont venus, qui se sont rassemblés, mais réellement de ceux qui te touchent, de ce contact direct de la foi, et que nous puissions ouvertement te confesser et dire « Oui, c'est moi qui t'ai touché, Seigneur, et qui ai connu en cet instant même la guérison que tu donnes. Instruis-nous, Seigneur Jésus, maintenant. Ouvre-nous toi-même les Écritures, ouvre-nous l'intelligence, ouvre-nous les cœurs. Et que ta bénédiction repose sur chacune de nos âmes, pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, dans cet après-midi du samedi 17 novembre, nous allons continuer notre thème « Quand vient l'apostasie » en étudiant cette portion de l'épître de Jude, les versets 8 à 16. Mais, selon une coutume qui me paraît utile, je vais repasser très brièvement ce que nous avons vu ce matin dans les versets 1 à 2 de notre épître. Nous avons donc trouvé le nom de l'expéditeur de la lettre, Jude, qui veut dire louange de l'Éternel. Puis nous avons trouvé aussi qui était le destinataire de cette lettre et les vœux qui étaient adressés à ces derniers. Ces destinataires, on a vu qu'ils étaient nommés comme étant des appelés. Puis nous nous sommes sentis nous-mêmes appelés. Qu'ils étaient aimés en Dieu le Père. Et j'ai tellement ce désir que quand vous parlez de Dieu, vous puissiez en parler comme d'un Père, hein, d'un bon Père. Je l'ai rappelé quelquefois, ici même il y a une quinzaine d'années, j'avais entendu un professeur de théologie dire au Québec, il ne faut pas présenter Dieu comme un père, parce que les gens, les Québécois, ont de trop mauvais souvenirs du père, l'image du père, ça représente guère Dieu, parce que on nous a toujours menacés avec le père. Et pourtant, le vrai Dieu est un bon Père. Et si vous ne connaissez pas Dieu comme Père, qu'êtes-vous ? Des orphelins. Même si vous prétendez connaître Jésus. Des gens qui me disent, moi je connais Jésus, j'aime Jésus, mais Dieu ne m'en parlait pas trop. Jésus est Dieu. Et Jésus ne garde aucune âme pour lui. Il les conduit au Père. Et le vrai salut, c'est d'être conduit au Père. C'est ça qui est fantastique. Et voyez-vous, tout le travail, c'est vraiment l'œuvre du Père. Jésus ne s'est jamais attribué une conversion. Tandis que nous autres, les évangélistes, les prédicateurs, nous comptons, soi-disant, hein, nos conversions. Dans mon ministère, j'ai amené tant d'âmes au Seigneur. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez peut-être été sur son chemin, un poteau indicateur. Mais Jésus n'a jamais dit, moi j'ai amené les âmes. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est quand même fantastique cela. Jésus ne s'est jamais glorifié d'avoir amené une seule âme. Il dit, nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc ce n'est pas une méthode d'évangélisation qui attire les âmes et qui amène à prendre une décision. C'est vraiment l'attraction du Père. Et je voudrais que vous compreniez bien cela. C'est l'œuvre du Père. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu, le vrai Dieu, qui crée en vous ce besoin et qui vous attire et qui vous remet entre les mains du Fils. Reprenez bien le 17 de Jean. Et le Fils, c'est l'œuvre qui vous sauve et le Fils vous conduit ensuite au Père. Il vous remet au Père. C'est pourquoi il est dit, nul ne vient au Père que par moi. Il y a les deux textes, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean. Nul ne vient au Père que par moi. Mais Jésus, une fois qu'il nous a sauvés, il nous remet dans les mains de son Père. Et il nous dit, nul ne vous ravira de la main de mon Père. Alors nous avons donc une assurance. Nous sommes donc aimés en Dieu connu comme un père, et je l'ai dit hier soir, un père au cœur de mère. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 66 d'Ésaïe, un père plein de tendresse. Nous sommes aimés de Dieu et nous sommes gardés, nous sommes conservés. Et j'espère que malgré la secousse que certains peut-être ont ressentie ce matin au cours de cette étude, un certain ébranlement, eh bien j'espère que vous vous êtes souvenus que vous étiez gardés pour le salut, conservés pour le salut du jour final. Je n'ai pas voulu vous faire douter de votre salut ou de la réalité de votre nouvelle naissance. Alors, au verset 2, nous avons vu la salutation qui était composée de trois éléments, la miséricorde, la paix et l'amour. La miséricorde, c'est donc le pardon que nous avons reçu de Dieu au sujet de tous nos péchés. Quant à notre passé, eh bien, nous savons, quel qu'il soit, que le Seigneur a porté nos péchés, qu'il les a expiés. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes dans la reconnaissance, dans la communion avec le Seigneur et nous marchons dans l'amour, cet amour qui seul demeure. La foi et l'espérance auront leur fin, mais non pas l'amour. C'est pour ça que c'est l'amour qui est le sommet. Voilà ce qui est devant nous. Notre avenir, c'est l'amour. Être en Dieu, consommé en lui. De sorte que toute l'existence chrétienne, disions-nous ce matin, a été résumée dans ce vœu merveilleux, réconciliation, communion et enracinement dans l'amour. Dans les versets 3 à 4, nous avons souligné l'occasion et le but de cette lettre. Jude voulait écrire pour l'édification des âmes, il voulait leur parler de ce salut qui lui était commun à lui et à ceux auxquels il pensait. Et nous nous sommes posé cette question, mais qu'est-ce que le salut? Et nous avons souligné que le salut, ce n'était pas quelque chose, mais quelqu'un. Comme l'a dit l'Éternel, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est cette connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est ici la vie éternelle qu'il te connaît. D'une connaissance qui n'est pas une information biblique, mais qui est une relation, une union, une identification au Seigneur. C'est ça, le connaître, lui, comme le disait l'apôtre Paul. Donc c'est quelqu'un. Et si c'est quelqu'un, donc, on ne le perd pas, n'est-ce pas? On ne peut pas le perdre. On peut perdre quelque chose, mais on ne peut pas perdre quelqu'un. Surtout si ce quelqu'un nous possède. Ce n'est pas nous simplement qui le possédons, c'est lui qui nous possède. Et c'est de cela que nous jouissons. Le Seigneur nous a acquis pour toujours. Il nous possède. Nous sommes à lui. Et lui est à nous. Et nous sommes à lui. Alors, au lieu de nous parler de ce salut, ce si grand salut de Dieu qui est réellement merveilleux, Jude s'est senti poussé à les exhorter à combattre donc pour la foi. Et nous avons vu ce qu'était la foi ici dans ce texte. C'est l'ensemble des vérités du christianisme, la foi objective. Et cette foi, il est dit qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et ces vérités qui forment donc notre foi, que nous croyons, ces vérités, nous les avons reçues une fois pour toutes. Et nous avons souligné que vous pourriez faire une étude remarquable sur ces simples textes, une fois pour toutes. Ce sont des vérités qui ne changent pas, qui ne se modifient pas. L'enseignement du Seigneur, nous le recevons quand nous croyons en lui, nous le recevons définitivement. Et ce salut donc est un salut universel, et nous avons souligné que combattre pour la foi, c'était un combat qui est moral. Il y a une lutte, il faut prendre une décision pour entrer dans la porte étroite, par la porte étroite, comme l'a dit Jésus, lutter pour entrer par la porte étroite alors qu'il y a le chemin large. Nous avons vu que ça pouvait être un combat aussi militaire comme un combat sportif. C'est le bon combat. Et nous voudrions que tous vous puissiez arriver comme Paul à la fin de votre course, et je le demande pour moi-même, en pouvant dire « J'ai combattu le bon combat ». Mais nous avons vu que dans un combat, eh bien, il y a des risques, de sorte que nous devons avoir une armure, nous devons être couverts de cette armure complète de Dieu pour que nous puissions résister et vaincre. Et nous avons vu aussi que tout combattant suivait un régime, s'astreint à un régime et doit combattre selon certaines lois. Et c'est très humiliant de penser que nous voudrions être des vainqueurs, hein, nous voudrions avoir un prix, nous voudrions être couronnés sans rien accomplir, sans épreuve. Or, il y a des épreuves. Celui qui veut être violoniste, et nous en avons un parmi nous, et je sais combien il a dû et combien il doit encore continuer des exercices. Si on abandonne, on m'a dit que Heidi Menuhin, que vous connaissez, avait arrêté pendant 10 ans, et bien il n'a plus paru sur les scènes pendant longtemps, hein, jusqu'à ce qu'il ait pu retrouver cette maîtrise. On ne s'arrête pas dans la vie chrétienne. C'est un exercice quotidien. C'est tous les jours que nous devons être avec le Seigneur. C'est pas une fois par semaine parce qu'on va au culte ou à l'office que l'on se maintient. Pour se maintenir dans la grâce de Dieu, eh bien, c'est un exercice de tous les jours, comme vous mangez tous les jours pour entretenir la vie de votre corps et renouveler vos forces, nous devons aussi tous les jours nous nourrir de la parole. Et si Jude a écrit ainsi, c'est parce que il a été conscient de ce danger qui paraissait dans l'Église en son temps, de ces hommes impies, qu'il l'appelle, et qui se manifestaient au sein de la communauté primitive. Et nous avons souligné le caractère de ces impies. Je voudrais tout de suite ajouter ici que nous tous, nous avons pu être des impies. mais nous avons maintenant la foi en celui qui justifie l'impie. Nous avons tous été des impies, c'est-à-dire privés de relation avec Dieu. Nous n'étions pas en relation avec Dieu. Mais dans sa grâce, le Seigneur nous a fait connaître son amour et nous avons reconnu notre impiété. Et nous savons que l'amour de Dieu est assez grand pour justifier même un impie. C'est le chapitre 4 des Romains qui nous montre ça. Et dans le chapitre 5, il est dit que Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous en ce que lorsqu'il était encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, nous étions autrefois des impies. Nous étions autrefois des pécheurs. Mais maintenant que nous avons reconnu Christ comme sauveur, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Est-ce qu'on garde le caractère d'impie une fois sauvé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, justement, le caractère des impies que nous avons vu, eh bien, nous avons souligné deux choses. Il change la grâce de Dieu en débauche. Et puis, deuxièmement, il renie le seul maître et seigneur qui est Jésus-Christ. Ils n'obéissent pas à la seigneurie du Christ. Ils ne se soumettent pas à l'enseignement du Christ et ils abusent de la grâce. Ils disent, on est sauvé par grâce et bien péchons afin que la grâce abonde. Et ils se disent super spirituels. Hein. Alors nous avons vu que leur jugement à ces impies-là est écrit dans les livres. Ils n'étaient pas prédestinés à la perdition. Mais restant dans cet état d'impiété, qu'est-ce qui leur arrivera? La perdition, ça s'est écrit. C'est écrit dans les livres. C'était pas écrit qu'ils devaient être perdus. Ils auraient dû être sauvés. Ils pouvaient être sauvés. Comprenez-vous? Ils pouvaient être sauvés. Mais s'ils refusent la grâce et s'ils refusent le salut, c'est écrit qu'ils seront perdus. Et il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Ce qui est écrit est écrit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les promesses de Dieu que pour ses jugements. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Alors, j'ai souligné que vous pourriez faire aussi une étude très riche au sujet des livres célestes. Même il y a un livre, disions-nous, où nos larmes sont écrites. Alors, ces hommes impies, vous l'avez bien compris maintenant, ils renient Dieu et Jésus-Christ par leurs actes. On reconnaît vraiment un arbre à ses fruits. Alors, ces faux docteurs sont jugés par anticipation. Et dans les versets 5 et 8, par lesquels nous avons terminé notre étude ce matin, on a trouvé trois exemples tirés de l'Ancien Testament et qui confirment que Dieu ne passera pas l'éponge. Dieu, dans son amour, avait délivré Israël du pays d'Égypte. C'est le premier exemple que nous avons vu et que vous pouvez méditer en relisant 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. Ils étaient esclaves en Égypte et la puissance de Dieu les a sortis de ce pays d'Égypte. Et pourtant, à cause de leur incrédulité, ils sont morts au désert. C'est ce que nous avons vu. Le deuxième exemple, c'est celui des anges déchus. Oui, il y a eu dans le monde angélique une révolte contre Dieu. Et c'est là le secret, au fond, du mal. Le mal n'est pas éternel, le mal n'avait pas d'existence propre. Pour qu'il y ait le mal, il fallait qu'il y ait une opposition au bien. Et le bien suprême, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Et un jour, un être qui avait été créé par Dieu, mais créé libre, a osé s'opposer à Dieu. A cru qu'il pouvait s'opposer à Dieu. Et quand on lit toutes les Écritures, on peut vraiment se demander si cette opposition à Dieu n'a pas eu lieu quand Lucifer, qui était le porte-lumière, le chef de tous les anges, a entendu que Dieu avait décidé de créer un être au bonheur duquel il allait travailler et qu'il prédestinait à être semblable à qui ? À l'image de son fils. Alors, si cet être était créé par Dieu et devenait semblable au fils unique, il allait être plus haut que qui ? Que les anges. Alors, opposition du chef des anges. Dieu ne va pas faire une chose comme ça. Et il veut supplanter Dieu. Il devient à ce moment-là, tout ange qu'il est, ange de lumière, l'ennemi de Dieu. Évidemment, Dieu aurait pu l'anéantir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais c'est Jésus qui nous donne la clé, qui nous montre que celui qui a donné l'existence au mal, parce qu'on discute toujours de l'origine du mal, ça nous suffit de savoir ce que Jésus a dit. Chapitre 8 de Jean, verset 44. Jésus dit d'une façon claire que le premier qui a péché, c'est pas Adam, c'est pas un homme, mais c'est un ange. Et Jésus disait aux Juifs, verset 44, vous avez pour père qui ? Le diable, eux, ils pensaient qu'ils avaient Dieu pour père. Hein. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà ce que Jésus nous dit. Maintenant, si vous voulez d'autres explications, eh bien, vous pouvez penser à un tas de choses, mais ça nous suffit. Jésus nous a montré l'origine du mal dans le cœur d'un être qu'il appelle maintenant le diable. L'adversaire de Dieu qui a voulu être aussi l'adversaire de sa créature. Et qui a essayé de détourner l'homme, la créature que Dieu voulait à l'image de son fils. Il a essayé de la détourner pour que le plan de Dieu soit livré à un échec total. Mais le fils unique de Dieu, voulant satisfaire le désir de son père qui voulait avoir auprès de lui une famille, lui a s'est offert pour venir réparer la faute de l'homme qui a fait le mauvais choix, qui lui aussi a été créé libre, qui n'était pas destiné à la mort, aux humiliations du sépulcre, mais qui était destiné à la gloire. Mais hélas, au lieu de suivre le chemin que Dieu lui avait indiqué, l'homme a suivi la voie d'un étranger. Et je dis l'homme pour ne pas faire de peine à nos sœurs, et vous ne direz pas que je suis antiféministe. Du reste, l'Écriture nous dit bien que le premier qui a péché, c'est qui ? C'est Adam. C'est toujours le péché d'Adam. Hein. C'est lui qui est responsable. La femme, évidemment, a été tentée la première. Elle n'a pas été une aide pour l'homme, ce qu'elle aurait dû être. Mais enfin, celui qui est responsable, c'est Adam. C'est l'homme. Mais il a suivi la voie de sa femme qui elle-même a écouté la voix d'un ange, de l'ange pervers. Et vous savez, il y aurait beaucoup de choses à vous dire là-dessus, aussi pour le voile de la femme au sujet des anges, parce que nous croyons à la réalité des anges, et nous allons encore apprendre bien des choses au sujet des anges. Et que les anges aussi peuvent être tentés. Alors attention, mes sœurs, ne tentez pas les anges. C'est déjà assez de tenter les hommes pour ne pas tenter les anges, parce que nous sommes observés sans cesse. Alors il y a les anges déchus, je ne vais pas m'allonger là-dessus, puis on a pris le troisième exemple, c'est Sodome et Gomorre, les villes de la plaine. Et c'est très intéressant de lire tout l'ensemble de l'écriture. Sodome et Gomorre, vous avez le récit de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre dans le chapitre 18 et 19 du livre de la Genèse, mais nous avons aussi d'autres détails sur le péché de ces gens de Sodome. Et je voudrais vous montrer comment on tombe dans tous ces péchés grossiers, dans tous ces péchés infâmes. Ça commence dans le cœur. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome. C'est à Israël qu'Ézéchiel parle par la bouche de l'Éternel. Mais il appelle Israël la sœur de Sodome. Israël était devenu comme Sodome. Et quel était le crime de Sodome? Il est dit, elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. C'était la société de consommation. Une insouciante sécurité, c'était la Dolce Vita. On a même fait un film là-dessus. Elle et ses filles vivaient dans une insouciante sécurité. Elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Voilà comment ça a commencé à Sodome. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations. Dans ce luxe, dans cette abondance, au lieu de partager, elles se sont mises à commettre des abominations. Ces abominations que vous connaissez, qu'on appelle la sodomie, l'homosexualité, tout ce que vous voulez. Et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Pour Dieu, ce qui se passait à Sodome, ça s'appelait quoi? Des abominations. Mais aujourd'hui, comment est-ce que ça s'appelle? C'est très bien. C'est le moment qu'on s'aime. On fait des cortèges. C'est très gai, hein? Oui. Des cortèges. On a des droits. Ben, relisez le chapitre 1er des Romains, où après qu'il a été mentionné que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, hein, il est dit aussi que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre tout ce qui se fait contrairement à la loi divine. Alors, donc, vous avez l'exemple de Sodome. Et qu'est-ce qui est arrivé à Sodome? Une destruction totale. Mais avant que Sodome soit détruite, qui a été averti que Sodome allait être détruite? Abraham, un homme qui, lui, était en relation avec Dieu. Mais Lot, qui habitait dans Sodome, est-ce qu'il a été averti d'abord? Non. Non, il ne savait rien. Il continuait sa vie. Oh, il tourmentait son âme juste. Il était pieux quand même, mais il vivait. C'était plus aisé de vivre à Sodome qu'ailleurs. Mais évidemment, il n'était pas d'accord, mais il s'était laissé nommer dans le gouvernement de Sodome. Il avait sa place à la porte de la ville, alors. Bon, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a tout perdu en final. Il a perdu ses filles, ses gendres, et il a perdu aussi sa réputation à lui, puisqu'il a fini aussi dans l'inceste avec les deux filles qui lui restaient. Il a perdu aussi sa femme, hein, qui s'était tellement attachée à Sodome qu'elle traînait, elle ne voulait pas partir. Quand on a raconté cette histoire au camp familial un jour, au camp là à Cedar Lodge, on a demandé aux enfants pourquoi la femme ne voulait pas partir. Et une petite fille a dit, elle attendait un trailer. Elle attendait un trailer. La vérité qui sort de la bouche des enfants, on croit que les enfants ne comprennent pas. Son cœur était là, puis elle aurait voulu encore des affaires. Elle ne voulait pas partir. Elle attendait un trailer. Le trailer n'est pas venu. Alors, elle a regardé en arrière, puis elle est devenue une statue de celle. Ce ne sont pas des histoires, simplement. Mais lui, Abraham, il avait été averti. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Abraham a averti par Dieu, parce que Dieu ne fait rien sans révéler sa pensée à qui ? À ses prophètes. N'est-ce pas ? Or, Abraham était prophète. Et qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? C'est un homme qui se tient devant Dieu. Vous pouvez être prophète. C'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir, mais c'est un homme qui devient la bouche de Dieu. C'est un homme qui a un contact avec Dieu et qui reçoit des révélations du Seigneur. Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Alors, Abraham a donc l'occasion de prier. Parce que tout à coup, quand il apprend que cette ville de Sodome va être détruite, il pense à son neveu Lot. Alors il se met à prier, et c'est une prière extraordinaire, l'intercession d'Abraham. Il dit, mais le juge de toute la terre ne peut pas faire périr le juste avec le méchant. Et pourtant, ce Lot n'avait pas été correct avec son oncle Abraham. Eh bien, ça fait rien, il n'a aucune aigreur, aucune rancune, et il intercède. Puis il dit, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu détruirais la ville ? Et Dieu dit, si j'en trouve 50, je pardonne à la ville. C'est beau, hein ? Alors, on voit Abraham qui est craintif devant Dieu, mais il lui dit, tout à coup il dit, mais si on avait seulement 45, puis vous connaissez toute l'histoire, hein, il arrive à combien ? À 10. Puis il dit, je ne parlerai plus qu'une fois, mais si on avait seulement 10 justes. Et Dieu dit, s'il y en a 10, je pardonne. On a pensé que si Abraham était allé jusqu'à 1, il aurait sauvé la ville. Hein? Parce que dans le chapitre 5 de Jérémie, il est dit, courez dans la ville de Jérusalem, et si vous y trouvez un homme qui fasse ce qui est juste, je pardonnerai à la ville. Vous vous rendez-vous compte, hein? Jusqu'où vous pouvez aller dans la prière ? Et Abraham est allé jusqu'à 10. C'est pourquoi encore, chez les Juifs, pour qu'une assemblée religieuse soit valable, il faut qu'il y ait 10 personnes. Et c'est basé sur l'histoire de Sodome. Dieu avait dit, s'il y en a 10, je pardonne. Alors, pour qu'on ait la certitude que Dieu est présent chez les Juifs, il faut qu'on soit 10 au moins. Et pour les chrétiens, combien est-ce qu'il faut qu'on soit ? 2 ou 3. Hein? 2 ou 3, c'est extraordinaire ça. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Mais vous voyez comme c'est passionnant, l'écriture sainte, quand on veut vraiment la lire, s'en nourrir et la manger. Alors donc, il y a eu l'histoire de Sodome et les anges sont venus à Sodome. Alors, ces 3 exemples ne sont cités que pour permettre à l'auteur de dénoncer ceux qui, aujourd'hui, perturbent les communautés chrétiennes par leur vie et par leur enseignement. Il montre que Dieu ne passe pas. Et je vous ferai simplement remarquer que les habitants de Sodome, qu'est-ce qu'ils ont cherché quand les anges sont venus à Sodome pour sauver Lot et les siens ? Ils ont cherché à abuser sexuellement des anges. Voilà 2 anges qui arrivent à Sodome et Lot les reçoit et les gens de Sodome viennent frapper à sa porte pour les faire sortir, pour les connaître. Littéralement, c'est pour les pénétrer. Le mot tel qu'on doit le traduire, ce serait pour les pénétrer. Donc, c'était ça. Ils ont cherché donc à avoir une relation sexuelle, non simplement avec des hommes, comme ils le faisaient, ou des femmes entre femmes, mais avec des anges. Comme les anges, avant, avaient été séduits par qui ? Par les filles des hommes. Vous avez cela dans le chapitre 6 du livre de la Genèse. Et de ces relations entre les anges qui, pour paraître sur la terre, revêtent un corps, ces relations ont donné quelle sorte de race ? La race des géants. Vous connaissez ça. Il y en a qui n'y croient pas. Bon, la parole de Dieu nous dit cela et nous le croyons, même si cela ne nous dépasse. Alors, j'arrive maintenant au verset 8. Vous m'excuserez si je me suis étendu, si je suis revenu un peu en arrière, mais c'est pour que vous puissiez mieux comprendre et qu'il vous reste vraiment quelque chose de cet enseignement que nous essayons de vous donner ou redire les mêmes choses ne m'est pas pénible. Je vous dis cela à vous qui saviez tout. Toutes ces choses, vous les saviez, mais je vous les redis quand même, parce que c'est nécessaire. Alors, les faux docteurs commettent donc un double péché. Un péché qui est sexuel et un péché qui est spirituel. Et vous savez, les cellules du sexe et de la spiritualité, prétendons, sont très proches dans le cerveau. Les faux docteurs commettent donc un double péché qui est sexuel et spirituel. Le péché sexuel, c'est de souiller la chair. Vous avez exactement ces termes hein, dans ce verset. Malgré cela, malgré ces exemples qui ont été donnés de l'Ancien Testament, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Et relisez alors Romains 1, et vous verrez ce qu'ils reçoivent en voulant se moquer de ce que Dieu a fait, de la nature et de l'ordre que Dieu a donné dans la nature. Donc, ils font deux péchés. Ils méprisent les réalités divines et ils souillent la chair. Souiller la chair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est instrumentaliser le corps pour en faire un moyen de plaisir sans attention à la dimension spirituelle de la relation sexuelle. Il y a dans la relation sexuelle une dimension spirituelle dont on doit tenir compte. Si vous ne voulez pas tenir compte de cette dimension spirituelle dans la relation sexuelle, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je souille la chair. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que l'Écriture dit. Je souille la chair. La relation sexuelle n'est pas un péché. La relation sexuelle a été établie par qui? Par Dieu, par le Créateur. Qui a dit « Soyez féconds, croissez et multipliez ». C'est là la première raison de la relation sexuelle. C'est donc la procréation. L'Église romaine a prétendu que la relation sexuelle ne pouvait exister que pour la procréation. Ça, c'est trop limitatif. L'Écriture va plus loin, a un sens plus large. Mais Le premier but de la relation sexuelle, c'est la procréation. Or, aujourd'hui, on ne veut plus d'enfants, et alors c'est l'avortement. Parce que la relation sexuelle, on la veut quand même. Hein. Mais s'il y a des conséquences à cette relation, donc on supprime les conséquences par l'avortement ou par d'autres moyens. Bon. Procréation. Mais une seconde raison, vous l'avez au chapitre 2. Quand Dieu présente à Adam, le premier homme, cette femme qu'il a créée, qui est sortie de ses mains, mais qui était tirée de l'homme, de sorte qu'on a dit quelquefois que Adam se serait écrié quand il a vu Ève, il aurait dit « mon os !»« Mon os hein. !» Parce qu'il a retrouvé ce qu'on lui avait pris. Ça correspondait. Voilà. Alors, il a dit, cette fois, lui qui avait cherché dans tous les animaux, et il y avait bien des animaux, il n'avait pas trouvé d'être qui lui correspondait. Et alors Dieu est allé au-devant de ce besoin, et il lui a fait une aide qui lui correspond. Alors quand il la voit, et vous savez, c'est pour ça que je dis que Dieu est le premier anesthésiste, hein. Il a endormi pour faire l'opération. Il a endormi Adam, donc Dieu n'est pas pour la douleur. Et il a fait une anesthésie à l'homme, il a fait tomber sur l'homme un profond sommeil, et puis il a tiré de cette côte, il en a fait une femme qui correspondait donc à l'homme. Et Adam dit, cette fois, celle-ci est hors de mes os, chair de ma Et puis, alors, il la contemple. Évidemment, elle avait un manteau de fourrure quand il lui a présenté. Non. Elle n'avait pas quatre chemises l'une sur l'autre. Non, elle était nue dans cette beauté que Dieu lui avait faite. C'était son vêtement de gloire. Et il n'y a pas de honte dans le mariage à être nus l'un devant l'autre. C'est Dieu qui nous a fait ainsi. Alors, dans ce chapitre 2, on voit que cette relation qui a été donnée par Dieu n'est pas simplement faite pour la procréation, mais c'est l'expression d'une communion totale. L'expression d'une communion totale de deux êtres qui se sont promis fidélité, qui ont été mis ensemble par qui ? Par Dieu. Ève n'est pas la femme que l'homme a choisie, mais qu'il a reçue. Et une femme qui est vraiment femme dans le Seigneur, elle devrait s'en remettre vraiment à Dieu pour être certaine que c'est Dieu qui la donne à l'homme. Et Dieu ne se trompera pas, lui. Et puis, l'homme, pour être sûr que c'est la femme qui lui correspond, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander à Dieu de lui donner sa compagne, si il est fait pour le mariage. Et alors, il y aura une sécurité, et il y aura une certitude, et il y aura une communion totale, même s'il n'y a pas d'enfant. Vous n'allez pas me dire qu'Abraham n'a pas eu de relation sexuelle avec Sarah pendant tout ce temps, mais puisqu'il espérait avoir un enfant. Donc, la relation sexuelle dans le mariage n'est pas un péché. Moins de là. Alors, donc, il y a une communion totale. Relisez le Cantique des Cantiques et vous verrez que dans ce chant nuptial, vous trouverez un véritable équilibre dans ce domaine-là. Maintenant, il y a une troisième raison à la relation sexuelle, et cette troisième raison spirituelle aussi, vous la trouvez dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. C'est ce qu'on appelle habituellement la détente physique. Ce que peut procurer dans un mariage la relation sexuelle. C'est Paul lui-même qui dit cela au verset 5, enfin verset 4 déjà. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc il faut qu'il y ait consentement mutuel. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Puis c'est plus loin qu'il est dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Bon. Tout cela, je le cite en passant, pour vous montrer qu'il y a donc dans l'acte sexuel une valeur spirituelle. Et il ne faut pas oublier cela. Mais le deuxième reproche qui est fait à ces faux docteurs, à ces impies, c'est de mépriser les gloires ou de mépriser la seigneurie. Enfin, ce que Dieu a établi, on peut, au lieu de mettre les gloires, c'est, dans la version seconde, il est dit, il méprise, quoi, l'autorité. Qui est l'autorité? C'est Dieu lui-même, c'est pas simplement les anges. C'est Dieu lui-même. Il méprise l'autorité, c'est Dieu, et il injurie les gloires, ce sont les anges, comme vous avez aussi dans la deuxième de Pierre. Mais l'autorité suprême, c'est qui? C'est Dieu. Alors, quand on veut changer l'ordre naturel de Dieu, qu'est-ce qu'on méprise? On méprise l'autorité. Dieu le Créateur a fait certaines choses dans un certain but, et si vous pensez pouvoir faire autrement, eh bien, vous méprisez l'autorité suprême. Et je dis quand même dans le chapitre 11, dans le chapitre 1 des Romains, ce qui est dit ceci, il est dit ceci, que les hommes, verset 21, ils ont connu Dieu au début, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, verset 21, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc l'impureté, c'est une conséquence d'un rejet de Dieu, de l'autorité de Dieu. Quand on commence à rejeter l'autorité de Dieu, on tombe dans toute espèce de désordre et d'impureté. Ils se sont livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Quand on entend les gens parler, c'est vraiment ça. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'ils adorent? Tout. Sauf Dieu. Oh, je l'adore. Oh, j'adore cela. C'est abominable. On nous dit, tout le monde le dit. Pourquoi est-ce que moi je ne le dirais pas? Mais un chrétien ne dit plus cela. Qu'est-ce qu'il adore? Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras. Vous l'avez entendu dans votre catéchisme. Où que vous soyez. Hein, de quelque milieu que vous veniez. Alors, donc, il était dit qu'on adorerait la créature plutôt que le Créateur. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions très bonnes, infâmes, hein, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, et commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ils savent les gens, hein, ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et nos gouvernements vont commencer à approuver ceux qui font ces choses. En disant, n'est-ce pas, ce sont les droits de l'homme et tout ce que vous voudrez, et les droits de la femme. Alors voilà. C'est le temps de l'apostasie. Nous allons vers l'apostasie, le rejet ouvert de toutes ces vérités. Et quand il est dit qu'il blasphème les gloires, on peut dire aussi que on en arrive à vouloir s'emparer par des pratiques magiques du pouvoir des anges pour s'en servir à des fins immorales. Et vous savez qu'on emploie surtout qui ? Satan, l'ange des ténèbres. Et vous savez que maintenant, il y a un culte qui est vraiment ouvertement rendu à Satan. Il y en a eu un à Québec, il y en a eu un à Montréal, et vous savez ce que ça a donné. Avant, il y a toujours eu des sectes qui adoraient Satan.
et qui se livrait à toute espèce de choses abominables. Mais maintenant, on admet par exemple au forum qu'il y ait un culte rendu à Satan. Et il y avait des milliers de jeunes qui y sont allés et on a fait des réunions genre Billy Graham, mais où on demandait aux gens de donner leur cœur à qui ? Au diable, à Satan. Puis il y avait aussi des conseillers pour ça. Vous voyez, une imitation, quelque chose d'épouvantable, quelque chose de terrible. Et ces jeunes donnent leur cœur à Satan. Et ils deviennent possédés quand ils sont sortis. Vous savez combien ils ont saccagé 3 stations de métro à Montréal. Ils ont fracassé des sièges dans le métro. Et ça, les autorités ont laissé faire. Bon, bien sûr... Ça a fait travailler un peu la police après, mais on en arrive là, un culte rendu à Satan. Vous voulez devenir les adorateurs de Satan ? Ah bien évidemment, quand Dieu ne répond plus, pourquoi est-ce qu'on n'emploierait pas ? Le diable. Mais le diable, c'est le grand tentateur. Il dit, fais ta petite courbette devant moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai tout ce que tu veux. Il l'a dit à qui ça ? À Jésus. Si donc Satan a osé tenter Jésus, vous ne devez pas vous imaginer qu'il a peur de vous. Hein? Vous croyez que Satan a peur de vous ? Et que Satan ne rôde pas autour de vous cherchant qui il pourra dévorer, parce qu'il aime la chair fraîche. Qui il pourra dévorer ? Que vous soyez noir, ou que vous soyez blanc, ou que vous soyez rouge, ou que vous soyez jaune, peu importe. Que vous soyez en pleine santé ou cancéreux, il vous mangera. Puis ne vous figurez pas qu'il est très laid, Satan. Il a la figure que le monde aime. Je le dis souvent, ça. Hein. Il est séduisant. Il est séduisant. Il n'a pas des pieds fourchus, des cornes, une petite queue. Non, c'est pas ça. Puis il n'a pas une fourche. Il vient à vous. Peut-être avec de l'argent. Tu as besoin de quelque chose. Demande-moi, je te donnerai. Et pourtant, il n'a rien. Et c'est un menteur et un meurtrier. Et quand vous l'aurez suivi, et qu'il vous aura pressé comme un citron, hein, qu'il ne pourra plus rien sortir de vous, parce qu'il y a un jour, même quand on a commis toutes les iniquités, tous les péchés possibles, toutes les impiétés, qu'est-ce qui arrive ? On meurt. Et il vous laissera crever. Puis les hommes vous enterreront. Puis alors vous chanterez autour du trou. Enfin. Oui, mais on aime bien Jacques Brel, hein. Et je veux qu'on chante, et je veux qu'on danse. Quand c'est qu'on me mettra dans le trou. C'est beau. Sans vouloir, tout à l'heure, j'ai assisté à un enterrement là. Mon ami aussi, une de ses chères sœurs. Dans la face. Ça nous y fait penser. Hein. Je me disais, nous tous on est appelés, si le Seigneur ne vient pas, à passer par là, à avoir ce petit rassemblement d'hommes qui grelottaient sous le vent. On fait le plus vite possible. Oui, et s'emparer même du pouvoir des anges, ce pouvoir satanique, avoir de la puissance de Satan. L'homme de péché, justement, celui qui vient, l'Antichrist, c'est à lui que Satan donnera toute sa puissance. Il fera des miracles, il fera des prodiges. Et le monde entier est préparé à cela. On veut des miracles, on veut des signes. Hein, vous les aurez bientôt. Puis alors, évidemment, en même temps, on blasphème. Et alors, le verset 9 que vous avez là, eh bien, vous avez vu, on a un contre-exemple qui est donné par Jude au sujet de ces impies. Verset 9, l'archange Michel, lui, contrairement à ces impies, lorsqu'il contestait avec le diable, c'est dans un livre... qu'on appelle l'Assomption de Moïse, qu'on trouve là, un livre apocryphe, mais que Jude a cité, donc on peut croire que c'est vrai, puisque Jude l'a cité et que ce livre a été reçu dans le canon des Écritures, l'Épître de Jude. Mais l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, qui disputait le corps de Moïse. Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans l'Écriture? Qu'est-ce qui avait reçu le pouvoir de la mort dans l'Ancien Testament? C'était Satan. Hein? Le diable avait le pouvoir de la mort. C'est ce qu'on lit dans Hébreux chapitre 2. Et alors, quand Moïse est mort, donc puisque il aurait voulu, Satan aurait voulu aussi posséder son corps, qu'est-ce qu'il en aurait fait? Il en aurait fait un beau sépulcre. Il l'aurait fait enterrer à une certaine place, puis il en aurait fait un lieu de pèlerinage. Et au lieu qu'on adore Dieu, qui est-ce qu'on aurait adoré? Moïse. C'est pas ça. C'est pas Moïse qu'on doit adorer. On est reconnaissant pour le grand serviteur de Dieu qu'a été Moïse. Or, Dieu a pris les devants. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Dans le chapitre 34 du livre du Deutéronome, qu'est-ce qu'il est dit? Quand Moïse est mort sur la montagne du Pisga, on y était tout près l'autre jour avec ma femme à Jérusalem, on était sur le Hérodion, puis on voyait la cime du Pisga un peu dans la brume, mais on pouvait distinguer quand même. Quand Moïse est mort là sur le mont Nebo, sur la montagne du Pisga, qu'est-ce qu'il est dit? Et Dieu l'enterra. Et Dieu l'enterra. Mais Dieu a des serviteurs. Et qui sont ses serviteurs? Ce sont les anges. Et le chef de tous les anges, maintenant, c'est Michel. C'est l'archange Michel. Le nom de Michel veut dire « qui est comme Dieu ». Et c'est lui qui est le responsable protecteur d'Israël, on le voit dans Daniel, et c'est lui aussi qui va mener finalement le combat contre Satan et contre les démons, contre les anges. Eh bien, celui qui est le chef des anges, Michel, lui, lorsqu'il a contesté avec le diable au sujet de ce corps de Moïse, il n'a pas osé porter un jugement injurieux contre Satan, mais il lui a dit que le Seigneur te réprime. Alors, vous voyez la distinction des hommes. Les hommes, ils se permettent tout. Hein. Ils injurient Dieu, ils blasphèment Dieu, ils blasphèment même Satan. Ils rient de Satan. Or, pourtant, il existe. Eh bien, Michel, lui, il s'en remettait au sujet de Satan, au jugement de Dieu. Que le Seigneur te réprime. Ça fait penser à un chapitre de Zacharie, chapitre 3. Quand on voit Josué, le souverain sacrificateur qui se tient devant l'Éternel et qui est couvert de vêtements sales, il est dit que le diable était là pour l'accuser. Peut-être que vous aussi, ce matin, vous avez senti que vos vêtements étaient sales, que vous vous êtes demandé, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que vous vous regardiez. Bien, relisez le chapitre 3 de Zacharie. Et vous verrez que Josué, le souverain sacrificateur, quand il se tenait devant Dieu, il avait conscience que ses vêtements étaient sales. Et le diable était là pour l'accuser. Ça vaut la peine que nous allons mettre un peu notre nez là-dedans. Hein. Zacharie, chapitre 3. Pour que vous puissiez voir le lien entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Combien tout se lit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Qu'est-ce qui va ôter vos vêtements sales? Si vous avez eu conscience ce matin que vos vêtements étaient sales, c'est le Christ. Laissez-vous faire. Vous ne pouvez pas vous dire, oh ben, je peux bien me déshabiller. Non. Laissez le Seigneur enlever vos vêtements sales. C'est comme je disais un jour, les Israélites, quand ils ont été mordus par les serpents dans le désert, hein, comment est-ce qu'ils pouvaient être sauvés? En secouant les serpents, comme ça. En regardant leurs morsures. S'ils regardaient leurs morsures et s'ils secouaient les serpents, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils mouraient. Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour être sauvés? regarder le serpent d'airain qui était là, pressé sur la croix. Et quand ils regardaient le serpent, ils étaient guéris. C'est dans les meurtrissures du Christ qui a été fait péché pour nous. C'est pourquoi il n'est pas présenté comme un agneau sur la perche. Il est présenté comme le serpent. Parce qu'il a été fait à l'image de ce que nous étions et de ce qui nous faisait mourir. Si lui est mort, c'est à cause de nos péchés. Et il était représenté là, sur la perche, comme le serpent. Comme s'il avait été le péché même. Jésus a été sur la croix comme étant le péché même. Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On sait qu'il était fait péché pour nous. Et c'est cela, n'est-ce pas, que nous rappelons à la Sainte Cène. C'est cela qui nous donne ce souvenir du Seigneur qui nous a aimés jusqu'à être fait péché pour nous. Ça nous donne la haine du péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas communier en disant, ben, je continuerai quand même de pécher, mais je viens pour communier. Hein. Non, on ne peut pas faire cela. Mais on est vraiment saisi. Alors souvenez-vous de cela. Les vêtements sales, qui est-ce qui nous les enlève? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous purifie. Notre purification, elle est faite par le Seigneur. Laissons-nous purifier. N'ayons pas la prétention de Pierre qui dit, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. Vous avez besoin qu'il vous lave les pieds tous les jours. On a tout le corps lavé parce qu'on croit à la parole, on est sauvé. Mais tant qu'on est sur la terre et qu'on marche dans ce monde, qu'est-ce qui arrive? C'est nos pieds qui peuvent être souillés. Alors, nous humilions de nos fautes, nous confessons nos manquements, nos péchés, mais nous restons dans la paix. Comprenez-vous? Mais nous ne passons pas sur le péché. Notre conscience est délicate, le Saint-Esprit nous éclaire et nous ne restons pas dans le péché. Le péché peut encore être là, mais c'est un accident et le Saint-Esprit nous réveille. Alors, après avoir parlé de Michel, verset 10, nous allons avancer. Vous voyez ce qu'il est dit. Ces gens-là, dit une certaine version, ou eux au contraire, contrairement à Michel, l'ange qui n'injurie pas Satan mais qui s'en remet au Seigneur, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ces impies, au fond, sont des ignorants. Mais ce qu'ils ignorent, ils l'ignorent volontairement. Ils ignorent ça volontairement. C'est une ignorance volontaire. Vous n'avez pas le droit d'être des ignorants. Le Seigneur est venu pour vous instruire. Et il dit, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, apprenez mes instructions. Apprenez de moi, venez à moi et apprenez de moi. Lui va être notre maître, lui va nous instruire. Et nous aurons le repos de nos âmes. Et nous aurons le repos aussi dans notre marche. Son joug est aisé et son fardeau est léger. N'est-ce pas? Mais voilà, ces gens-là, hein, ces impies, ils ignorent les choses de Dieu. Ils les ignorent. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. De sorte que on ne peut pas même les convaincre. Ils ne veulent pas. Et leur savoir, eh bien, il est dit qu'il est situé en quelque sorte à quel niveau? Au niveau de quoi? Au niveau de la bête. Parce qu'il y a en nous aussi la bête humaine. Hein. Mais si je suis la bête qui est en moi, hein, qu'est-ce qui me conduit? Ce sont mes instincts. Vous comprenez? Alors j'obéis simplement à des instincts. Des instincts, c'est des instincts comme les animaux. Comprenez-vous? Mais c'est même pire que les animaux. Mon ami Noël me raconter une histoire qui est pas mal. Il pourra vous la dire parce que je vais pas allonger, mais je cite seulement mon auteur. Ce serait, paraît-il, au sujet de descendre du singe, hein. Des singes qui s'entretiennent ensemble sur les arbres, puis qui regardent les hommes, qui disent non, c'est pas possible. Eux ne descendent pas de nous. quand on voit ce qu'ils font, hein, ils battent leur femme. Moi, dit le saint, je bats pas ma gueule. Et puis, enfin, vous continuez, n'est-ce pas? Ils n'ont pas leurs enfants, les petits singes. C'est pas un travail de singe, ça. C'est un travail d'homme. C'est quand même épouvantable à quoi on en est arrivé. On est comme des brutes, pas simplement comme des bêtes, hein, mais on est plus bas que les bêtes. On suit nos instincts. On se conduit comme des bêtes. Bien, vous voyez comme c'est fort cette épître. Elle est petite, hein, elle est courte cette épître. Mais qu'est-ce qu'elle est dense? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme. Ils suivent leurs instincts. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Oui, ils le savent, ces choses naturellement, mais ils sont comme des brutes. Bien, les singes ne font pas ça. On disait encore que le singe disait moi, je ne rentre pas libre à la maison. Je ne rentre pas ivre dans mon coin. Mais les hommes font ça. Je vous avais vu les singes empoisonner l'atmosphère avec leurs cigarettes. C'est quand même effroyable de penser que les hommes apprennent à fumer à des singes. Ça, c'est des singeries d'hommes. Oui, dans les zoos, on apprend à fumer à des singes. Alors vous pouvez méditer là-dessus. Et si vous voulez vraiment descendre d'un singe, eh bien. Alors verset 11, attention. Hein. Malheur à eux. Et il y a des bénédictions pour ceux qui veulent suivre le Seigneur. Mais pour ceux qui veulent vivre dans la révolte, malheur à eux. Malheur à eux. Ces gens-là reproduisent dans la communauté les péchés qui ont été dénoncés autrefois, dans ces versets 11 à 13. Ces péchés, eh bien, vous avez vu, ils ont marché dans quoi? La voie de Caïn. Il y a trois exemples. L'égarement de Balaam et la révolte de Coré. Alors, vous pouvez méditer aussi longuement là-dessus. La voie de Caïn, c'est la manifestation de la chair orgueilleuse. Caïn est religieux et il veut offrir aussi une offrande au Seigneur. Mais il choisit son offrande, son travail, ce qu'il a produit. Il est laboureur et il prend les fruits de la terre et il va les présenter au Seigneur en pensant que le Seigneur doit être satisfait de ses œuvres. Voilà, je te donne le fruit de mon travail. Puis, il n'est pas agréé. Alors, quand il voit Abel, lui, qu'est-ce qu'il offre à Abel, lui? Un sacrifice. Il prend parmi ses agneaux et il apporte au Seigneur les premiers-nés de son troupeau. Et ce sacrifice, parce que Abel a compris ce que c'est que la vraie foi, hein, maître, il se reconnaît pécheur et il reconnaît au fond qu'il devrait mourir. Et alors, à la place de lui-même qui devrait mourir, il offre une victime, les agneaux de son troupeau. Donc, il a compris le sacrifice. Parce que certainement, sa mère et son père leur ont raconté à ses enfants comment Dieu, après la chute, quand il les a chassés du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a couverts avec des vêtements d'animaux. Donc, Dieu a opérer le premier sacrifice. Et ça, Caïn, lui, il a entendu l'histoire comme Abel, mais ça n'est pas entré, hein, pour lui. Et il pense que, il connaît Dieu, il veut aussi offrir quelque chose à Dieu, eh bien, il offrira les fruits de son labeur, de ce sol maudit, de sa sueur. Tandis qu'Abel, il met sa confiance entièrement dans quelque chose où il n'y est pour rien, lui. C'est Dieu qui donne la vie. Il n'y est pour rien, il offre cette vie d'un animal. Et il est agréé. Alors, Caïn est mécontent, donc. Il est religieux, mais il est orgueilleux, il choisit son offrande. Et pourtant, Dieu Dieu lui parle. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es triste, Caïn? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Si tu fais le bien, ça veut donc dire que Caïn ne fait pas le bien. Ne seras-tu pas agréé? Et si tu fais le mal, le péché est couché à ta porte, mais il lui montre un chemin qu'il doit dominer sur lui. Et ce n'est pas le péché qui doit le dominer. Alors, Caïn a de l'envie dans son cœur. Puis qu'est-ce qu'il devient? Un meurtrier. Celui qui n'aime pas est un meurtrier. Je reviendrai encore un instant sur cette voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn. Et la voie de Caïn, c'est la voie du père du mensonge. Hein? Parce que vous retrouverez en Caïn tout ce qu'on retrouve dans Satan. Il est dit que Caïn, il était du malin dans la première épître de Jean, chapitre 3. Puis ils sont tombés aussi, ces impies, dans l'égarement de Balaam. L'histoire de Caïn, vous la trouvez au chapitre 4 de la Genèse. L'histoire de Balaam, vous la trouvez au chapitre 22 à 24 du livre des Nombres. C'était un prophète, et Balak, le roi de Moab, quand Israël avançait, Balak a envoyé une délégation vers ce prophète pour qu'il vienne pour maudire Israël. Et vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'on peut maudire Israël? Balaam était prophète, il savait ce que Dieu voulait au sujet d'Israël. Mais quand Balak lui envoie sa délégation avec des présents, il est quand même tenté. Parce qu'un prophète, il n'a pas toujours du beurre sur les épinards. Alors, si le roi de Moab me donne quelque chose, au fond, pourquoi? Alors, il dit, je vais lui passer une nuit en prière pour savoir ce que je dois faire. Puis, il passe sa nuit en prière, puis qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu n'iras pas avec ces hommes. Il le savait déjà qu'il ne devait pas y aller. Mais, comme on est tenté, alors il dit non, je ne peux pas aller pour maudire Israël, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Mais Balak pense que simplement il n'a pas envoyé des gens assez importants. Alors il envoie une nouvelle délégation avec des présents plus conséquents. Que devrait faire Balaam? Il connaît la volonté de Dieu. Mais il dit bien, restez encore cette nuit et je verrai si Dieu a quelque chose de plus à me dire. Et c'est ça notre piège. On fait la scie à Dieu. On sait très bien sa volonté. Sur un point, on ne veut pas céder. Et puis, c'est là que Dieu lui dit, cette nuit-là, va. Mais il lui montre bien qu'il n'est pas avec lui dans le chemin, puisque, vous connaissez l'histoire, l'ange de l'Éternel était là avec une épée nue, et sans son ânesse, Balaam aurait été tué. Alors il se met à battre son ânesse, pour toutes ces raisons-là, et pourtant c'est l'ânesse qui a raison. Et l'ânesse, pour épargner le prophète, pour finir, elle s'asseye sur le chemin parce que c'était trop étroit et son maître aurait été tué. Alors elle se met encore à la battre, puis tout à coup, l'ânesse se met à parler. C'est encore une singerie. Hein. L'ânesse qui parle, vous allez me dire dans l'écriture, oui, j'y crois. Dieu peut bien faire parler une ânesse. Quelle sorte de voix est-ce qu'elle avait? Une voix de femme. Ah ben bien sûr que c'était une ânesse. Si c'était un âne, ce serait une voix d'homme. Peut-être un ténor ou une basse. Mais enfin, je ne sais pas si c'est un soprano qu'elle avait. Mais enfin, elle lui a dit la vérité. Comme le coq, quand il a chanté, a réveillé la conscience de qui? De Pierre. Hein? Il emploie des animaux pour ça. Alors, ce Balaam, ça c'est l'erreur ecclésiastique, le mal ecclésiastique. Chez Caïn, c'est le mal de la chair, c'est quand la chair veut nous dominer. Et puis, malheureusement, même dans l'Église, on retrouve cette tendance. Il faut bien vivre, alors on accepte de l'argent un peu de n'importe où. Puis, aujourd'hui, c'est quelque chose d'effrayant. Alors, les serviteurs de Dieu, quand ils avaient des besoins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il priait vraiment. Maintenant, on envoie des circulaires. Ça coûte cher. Puis des fois, on en reçoit deux de la même personne. Alors, ça fait deux, c'est un tout bazar, là. Eh bien, que le Seigneur nous visite et que nous puissions nous demander, mais à qui est-ce que nous nous adressons et de qui est-ce que nous dépendons? Maintenant, il y a un troisième exemple, la révolte de Corée. Vous avez cela dans le chapitre 16. C'était le cousin germain de qui ? De Moïse et d'Aaron. Et il s'est révolté avec deux amis qui s'appelaient Dathan et Abiram contre le gouvernement de Moïse. C'est l'opposition ouverte à l'autorité que Dieu a établie. Moïse, c'était le vrai roi d'Israël tel que Dieu le voulait. Et Aaron était le sacrificateur. Alors, je résume tout cela. En résumé, Caïn est donc le type de l'esprit fort, méprisant envers les autres et qui ose même défier Dieu. C'est l'homme qui est. Et dans les Proverbes, au chapitre 26, verset 25, il est dit que dans le cœur de celui qui est, il y a combien d'abominations ? 7. Dans le cœur de celui qui est, il y a 7 abominations dans son cœur. Et vous pouvez les retrouver. Je vous donne là des pistes de réflexion hein, pour que vous ayez une nourriture biblique. 7 abominations dans le cœur de celui qui est. Eh bien, Caïn n'a pas aimé. Hein. Il était du malin. Il haïssait son frère. Alors, première abomination, il a sacrifié sans foi. Et Dieu n'accepte pas vos sacrifices qui ne viennent pas de la foi. Ses œuvres, il a apporté ses œuvres. On n'est pas sauvé par ses œuvres, on est sauvé par la foi. Caïn a sacrifié sans foi, première abomination. Donc, c'est un orgueilleux, il a l'orgueil dans son cœur. Il dit, c'est moi qui décide ce que je vais donner à Dieu, l'orgueil. Puis, deuxièmement, il se désole de ce que Dieu ne le favorise pas de sa bienveillance. Il a la figure allongée. Vous l'avez la figure allongée ? Il est triste. Et Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que ton visage est abattu ? Vous avez déjà pensé que Dieu s'occupe de vous, de votre visage ? Il dit, mais qu'est-ce que tu as ? T'as pas bonne mine. T'as le teint jaune aujourd'hui. Tu serais jaloux ? Parce que vous voyez, la jalousie, ça crée des toxines et puis ça ne va pas très bien dans la santé. Alors, et il se désole parce que donc Dieu ne l'a pas favorisé de sa bienveillance. Donc il a de l'envie dans son cœur. De l'envie, de l'orgueil, de l'envie. Puis ensuite, Dieu lui a parlé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Après avoir entendu Dieu, il s'endurcit. Il y a l'endurcissement dans son cœur, une troisième abomination. Puis, quand il parle à son frère, c'est la quatrième abomination, pour l'entraîner dans les champs, il a dû lui dire quelque chose de très beau, viens faire une promenade avec moi, hein, promenade hygiénique, on va se promener un peu dans les champs. Et il a parlé faussement à son frère. Qu'est-ce qu'il a été ? Un hypocrite. Et à l'hypocrisie, encore une abomination dans notre cœur. Hein. Jésus a parlé contre l'hypocrisie. Puis, une fois qu'il est dans les champs, qu'est-ce qu'il fait ? Il le tue. Il le frappe. Et il meurt. C'est la première fois qu'on voit un mort. Hein. Il a dû être étonné lui-même. Et oui, je l'ai frappé. Puis il est là maintenant. C'est quand même quelque chose de terrible, hein, tout à coup. Le premier criminel, il voit ce corps, et c'est celui de son frère. Donc il est devenu le premier meurtrier. Puis quand Dieu lui dit, « Ouais, Abel, ton frère, qu'est-ce qu'il dit ?» Je ne sais pas. C'est une demi-vérité, au fond, il ne sait pas où il est. Son corps, il sait très bien où il est, hein, parce qu'il a dû l'ensevelir quelque part dans le sable. Suis-je le gardien de mon frère ? Donc, c'est un menteur. Voilà encore une autre abomination. Et quand Dieu, alors, le juge, vous voyez qu'il ne l'a pas condamné à mort, hein, parce que le premier criminel n'a pas été condamné à mort. La peine de mort est venue après, au temps de Noé. Mais Caïn n'a pas été condamné à mort. Tu seras vagabond sur la terre. Alors, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn ? Il s'est désespéré. C'est la septième abomination. C'est d'en arriver au désespoir. Le désespoir, c'est un péché. Et il y a sept abominations dans le cœur de celui qui est. Je vous ai donné là des points de repère, des grands lignes. Mais si vous voulez retrouver ces sept abominations, vous les avez dans Matthieu aussi, au chapitre 15, le Seigneur nous montre cette abomination, qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes noms, mais c'est les mêmes éléments. Et si nous gardons ces choses dans notre cœur, qu'est-ce qui arrive? On est souillé. Ce ne sont pas les choses que nous mangeons qui nous souillent. Verset 19 du chapitre 15. Car c'est du cœur, Matthieu 15, verset 19, que viennent les mauvaises pensées. 1. Les meurtres. 2. Les adultères. 3. Les impudicités. 4. Les vols. 5. Les faux témoignages. 6. Les calomnies. 7. Voici les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc, voilà ce dont nous parle Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn n'a pas donné son cœur au Seigneur, il ne s'est pas soumis. Balaam, c'est le type de l'homme qui est prêt à trahir pour de l'argent. C'est la cupidité, même dans le service du Seigneur. Pour avoir de l'argent, on fera n'importe quoi. Même pour recevoir un don. Et enfin, Corée, alors c'est le type du révolté par orgueil. Il voudrait prendre la place de qui? De Moïse. C'est Dieu qui a donné cette place à Moïse. Et alors, après cela, après ces trois exemples sur lesquels vous pouvez méditer longuement, donc Caïn, la voie de Caïn, l'égarement de Balaam, et vous savez que Balaam est mort, a été tué. Il est mort dans son péché. Et puis, Corée, le révolté, qu'est-ce qui s'est produit pour eux? La terre s'est ouverte et ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Seulement, il y a eu la grâce qui s'est manifestée. Pour qui? Pour les enfants de Corée. Parce que vous voyez, quand Dieu va juger, il donne toujours un jour. Moïse dit, demain, je vous convoque, toi, Corée, Dathan et Abiram, avec les vôtres. Et demain, le Seigneur fera connaître qui il a vraiment choisi. Moi qui n'ai pas même pris un âne, je ne vous ai pas même demandé un âne, hein, je vous ai servi à fond, je me suis donné entièrement à vous, puis vous vous révoltez contre moi. Eh bien, que ce soit Dieu qui tranche. Si demain, vous mourrez comme tout le monde, eh bien, on saura alors que Dieu ne m'a pas envoyé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, pendant la nuit, certainement, les enfants de Corée, ils ont médité sur ce qu'avait dit Moïse, et ils se sont éloignés de la tente de leur propre père. Et c'est pourquoi il est dit, les fils de Corée ne moururent pas. C'est beau. Et où est-ce que vous les retrouvez, les fils de Corée? Dans les psaumes. C'est ces gens qui, il est dit, psaumes, fils de Corée. Et alors, quand vous savez cela, vous lisez les psaumes, vous savez que c'est des gens qui savent ce que c'est que la miséricorde. Parce qu'ils auraient dû mourir avec leur père. Mais là, ils ont préféré le Seigneur que leurs parents. Charnel, c'est quelque chose de merveilleux ça. Les fils de Corée ne moururent pas parce qu'ils ont pris cette décision de s'éloigner de la tente de leur père. Ils ont été sauvés. Ça c'est la grâce de Dieu qui opère. Alors maintenant, verset 12, vous avez lu cette description extraordinaire de ces gens qui veulent participer même aux agapes dans l'église. Les agapes, c'était ces rencontres qu'il y avait dans l'église primitive où l'on prenait quoi au sein de l'agape fraternelle? La sainte cène, la communion, hein, l'eucharistie, comme le dit le vrai mot grec. Mais évidemment, maintenant tout a été corrompu. Alors, ces impies, donc ces gens-là, ils prétendent qu'ils peuvent prendre la scène. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas au Seigneur, mais ils mangent et ils boivent à la table du Seigneur, mais ils mangent et ils boivent un jugement contre eux-mêmes, il faut bien se le dire. Ce sont des rêveurs. Et alors, vous avez toutes ces images. Ils sont des écueils. Qu'est-ce que c'est qu'un écueil? C'est un rocher, hein. C'est un rocher ou un banc de sable à fleur d'eau sur lequel un navire peut se briser ou s'échouer. Alors, donc, ce sont des dangers dans nos milieux si nous les laissons. Ce sont des écueils. dans vos agapes, ou des taches, qu'il est dit, alors que nous devrions être, nous qui avons été sauvés par l'agneau sans tache, nous devrions être aussi sans tache pour venir à la table du Seigneur. Et comment est-ce que je peux être sans tache? Par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang du Christ me purifie de tout péché. Et nous sommes purifiés quand nous savons nous humilier devant le Seigneur. Puis, il y a une deuxième chose. Il est dit, ils se repaissent eux-mêmes. Je crois que c'est ça que vous avez dans la traduction seconde. Ils font impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Donc, ils mangeaient dans les agapes fraternelles. Et qu'est-ce qu'ils auraient dû être, ces gens-là? Ils devaient se repaître ou paître le troupeau? Ils devaient paître le troupeau. Et au lieu de paître, qu'est-ce qu'ils font? Ils se repaissent. Vous voyez le jeu de mots? Ils se repaissent. Ça, si vous voulez méditer là-dessus, vous prenez le 34 d'Ézéchiel et vous voyez que Dieu avait établi sur Israël des bergers qui devaient s'occuper des brebis, pour paître les brebis. Et il les accuse d'être de mauvais bergers qui se repaissent, qui mangent, qui tondent les brebis. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, moi-même je paîtrai mes brebis. Moi-même j'en prendrai soin, parce que les bergers, eux, ils prennent la laine des moutons. Simplement, ils prenaient la laine des brebis. Alors, ils se repaissent au lieu de paître. Ils se servent au lieu de servir. Vous comprenez ça, hein? Voilà une image. Puis, troisièmement, ce sont des nuées sans eau. Vous voyez quand il y a la sécheresse et que tout à coup vous voyez un nuage. Hein? L'espoir que donne un nuage. Mais si le vent le pousse et le dissipe, et que la pluie ne tombe pas, que le nuage ne creuse pas, eh bien, c'est la déception. Eh bien, ces faux docteurs, ce sont des gens qui vous déçoivent, tôt ou tard. Nuée sans eau, et emportée par le vent, c'est une inquiétude continuelle, l'agitation, la déception. Ils sont poussés par les vents. Là, je pourrais citer une foule de textes dans les proverbes, parce que